L'épisode 108 du CKB Show, votre rendez-vous 15 ans madère, qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Aujourd'hui, nous réagissons aux résultats d'une enquête menée par le groupe public Interest Research Group sur l'utilisation des Chromebooks. Le fichier intitulé PIRG Chromebook Churn met en évidence les avantages et les inconvénients des ordinateurs sous Chrome OS. En effet, en quelques années, les Chromebooks sont devenus très populaires dans les écoles publiques américaines en raison de leur coût abordable, de leur facilité d'utilisation et de leur sécurité. Cependant, l'enquête révèle également que les Chromebooks ont une durée de vie moyenne plus courte que les ordinateurs portables traditionnels et que le coût des réparations peut parfois être très élevé. Nous allons décortiquer ensemble l'enquête et discuter des recommandations du rapport pour les fabricants de Chromebooks. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et si vous appréciez notre travail, vous pouvez aussi nous soutenir en devenant notre mécène sur patreon.com/mychromebook. En devenant contributeur, vous aurez accès à des avantages spéciaux, bien sûr, comme une expérience sans publicité sur le site mychromebook.fr, un salon Discord dédié réservé aux membres de notre communauté Patreon qui est de plus en plus grande, des contenus exclusifs réservés aux mécènes et naturellement notre reconnaissance éternelle. D'ailleurs, si vous appréciez vraiment beaucoup notre travail, vous pouvez aussi nous remercier comme GK pour en nous laissant un avis sur podcast Apple Podcast ou Spotify. D'ailleurs, l'avis de GK, c'est tout simplement, je ne fais que citer meilleur podcast sur les Chromebooks. Alors là, que dire de mieux? Alors, si vous appréciez notre travail, faites comme lui ou elle d'ailleurs. Laissez-nous 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et un petit commentaire. Bonsoir à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné ce soir de Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu?
Salut Nico, bonsoir tout le monde. Écoute, ça va très bien, comme un dimanche où on ne travaille pas demain. Ah, ça va forcément mieux de base.
C'est ça. On a le temps, on peut discuter. D'ailleurs, ce soir, on a quelque chose d'énorme. Hein. On va remercier d'abord tous ceux qui sont dans le chat. Bonsoir Méziana, bonsoir Didier, bonsoir. Comment tu m'as dit le prénom?
Gjallarhorn.
Voilà, merci. Bonsoir Thierry, bonsoir Live Athenium, bonsoir Les Échecs à l'école, très bien, un bon titre. Bonsoir Alain, bonsoir Hervé, je n'ai pas loupé, je crois, bonsoir à tous. Et oui, je réponds, j'ai vu, oui, ça va être la baston ce soir, un coup de gueule. Live Athenium, tu as raison, on va s'insurger face à un rapport qui nous a fait du mal, hein, Sylvain. Sans donner trop d'avantages de ce qu'on va donner dans le podcast, qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots?
Bah, disons que c'est un rapport qui est effectivement très à charge contre les Chromebooks, Chrome OS, avec un mélange un peu d'écosystème et de matériel. On va essayer, nous, en fait, de revenir sur les points, d'expliquer ce qui est potentiellement vrai, ce qui pour nous n'est pas vrai, donner peut-être parfois certaines informations de choses qui ont pu évoluer entre-temps. Voilà, pour essayer un petit peu de débriefer par rapport à ce rapport. Donc, il y aura sûrement des coups de gueule, il y aura sûrement des choses qui sont peut-être aussi vraies. Donc, voilà, le but, ça sera d'être le plus objectif possible, parfois, et puis d'autres, peut-être qu'on se laissera un petit peu plus aller, parce que bon, ça fait du bien de se lâcher un petit peu aussi.
Oui, bien sûr. Puis un peu de mauvaise foi de temps en temps. Hein.
On un parle petit des peu de mauvaise foi, exactement. On mettra des smileys au moment où on activera le mode mauvaise foi, comme ça vous serez au courant et tout le monde ne le saura. Et puis on peut prêcher un peu sa paroisse aussi de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Tout à fait.
Ouais. Bon, tu vois déjà dans le chat, Didier nous dit rectification, il veut changer carrément le titre du podcast ce soir. Pourquoi les Chromebooks sont-ils les meilleurs choix pour tout le monde? Et oui, pourquoi pas d'ailleurs? Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Alors, on va plonger immédiatement au cœur de l'enquête pour vraiment trouver les points qui ont été plutôt juste, bien noté par l'enquête, et puis ceux qui nous ont un petit peu achoppé. Le premier, si tu me le permets, Sylvain, c'est une chose qui est assez intéressante, parce que ça met en valeur les Chromebooks, c'est pourquoi, d'après leur enquête, les Chromebooks sont populaires auprès des écoles. Donc, ils nous ont simplement mis une petite phrase sympathique. Les Chromebooks sont devenus très populaires dans les écoles publiques américaines. Alors, oui, l'enquête, ça parle principalement des États-Unis, parce que, on le sait, hein, c'est le marché principal des Chromebooks.
À États-Unis et Canada, parce que l'association, Canada, justement, en l'occurrence, travaille sur les deux pays. Et l'angle en tout cas qui a été trouvé et sur lequel l'enquête a été réalisée, c'est vraiment dans le domaine scolaire, de l'éducation et suite à la crise sanitaire. la COVID. Donc, avec justement le fait que beaucoup de Chromebooks ont été achetés en très peu de temps par les écoles, est-ce que ça a généré derrière comme complication pour eux? Voilà, c'est juste pour resituer un petit peu le contexte.
Eh ben, parfait. Donc, les Chromebooks sont devenus hyper mainstream. Donc, comme tu le dis très bien, pendant la période de confinement en 2020, donc, parce que, ben, on le sait, faible coût. Forcément, un Chromebook, c'est beaucoup moins cher qu'un MacBook ou qu'un ordinateur Windows avec des caractéristiques équivalentes en termes de puissance. La facilité d'utilisation, puisque en fait, on le sait également, tout le monde peut utiliser un Chromebook très facilement. Ma grand-mère, ta grand-mère, bref, toutes nos grand-mères et nos grands-pères, ainsi qu'un enfant de 6-7 ans peut même avant l'utiliser facilement. Et dernier point qu'il souligne dans le rapport, et non des moindres, c'est leur sécurité, leur fiabilité, finalement leur sécurité, parce que Google a pensé, dès le début de la création de Chrome OS, à sécuriser de tout ce qui est virus, spyware, malware, cheval de Troie, etc. etc. Tu peux nous dire...
Je me permets de te couper un peu. J'aime bien toujours nuancer la manière dont est construite l'architecture de Chrome OS, en fait, limite, on va dire, le plus possible, le fait qu'il y ait des virus et ce genre de choses. Après, il y a aussi le fait que pour les pirates, en gros, plus un écosystème va être développé, plus il va y avoir de machines, pardon, et plus ils vont s'y intéresser. Aucun système n'est infaillible. Simplement, ça dépend du nombre d'utilisateurs, des coûts et des ressources mises à disposition pour aller récupérer des données. Mais c'est vrai que, disons, Chrome OS a essayé dès le début de faire un système un peu de bac à sable, on va dire un peu de container, pour pouvoir éviter justement ça.
Bah, tu vois, tu parles de bac à sable et de container, on peut rentrer un petit peu dans le détail rapidement, mais ces deux termes sont utilisés et veulent bien signifier deux choses différentes. Le bac à sable, c'est le démarrage en bac à sable qu'appelle Chrome OS, ce que ne fait pas forcément les autres systèmes d'exploitation, et n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais en gros, ton Chromebook, dès qu'il redémarre, donc quand tu l'éteins complètement et que tu le rallumes, il va aller vérifier que la version de Chrome OS installée sur ton ordinateur correspond à celle que Google a déployé sur ton ordinateur. Donc, il n'y a pas eu de modification du code source de Chrome OS en amont et qui pourrait influer sur l'usage de ton Chromebook, soit à des fins malicieuses pour récupérer des données, soit un problématique pour peut-être abîmer l'appareil. Et puis, derrière, on a le système de container, donc de containerisation. Donc, Windows, je crois, est en train de s'y mettre également. Donc, en gros, comment on peut appeler ça, les infrastructures ne se chevauchent pas. Donc, une fenêtre d'une application ne peut pas aller dans une autre fenêtre d'application. Je simplifie au maximum. Attention, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, mais c'est à peu près ça l'idée. Donc, en gros, chaque maison est bien fermée. Elle ne peut pas aller dans l'autre. Il y a des passerelles, mais qui sont très, très normées et très suivies par Google et Chrome OS. C'est ça. Au niveau de l'enseignement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc en 2020, tu l'as justement dit, est-ce qu'on a eu une grosse évolution en 2020 pour parler de Chromebook aujourd'hui autant que ça dans le milieu scolaire?
Alors, disons qu'effectivement, niveau mondial, dans toute la période, on va dire 2019-2021, enfin 2019 jusqu'à cette période, on annonce à peu près 275% en plus en termes de croissance et de vente. Donc, ce qui fait que c'est énorme en termes de… ça explose. Alors, ça explose sur quelque chose de base qui n'était pas très développé. Donc, forcément, les chiffres peuvent monter assez rapidement. Mais on a bien vu qu'il y a eu des besoins vraiment spécifiques au moment de la crise avec du bon marché, du simple d'utilisation parce que les produits Google, en règle générale, même sur les autres écosystèmes, sont utilisés. En règle générale, Google Chrome, les gens ou les Gmail ou autres ont l'habitude, même s'ils n'étaient pas sur Chrome OS. Donc, il y a quand même une mise en place qui est beaucoup plus simple avec peut-être un peu moins de formation par rapport à ça. Et on estime en gros que dans le secteur de l'éducation aux États-Unis et au Canada, sur cette période-là, c'est à peu près 60% des ventes totales sur ces trimestres, en gros, en schématisant. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu plus d'un appareil sur deux acheté qui a été un Chromebook. C'est énorme. En termes d'implémentation, ça génère un marché. On est quand même, les États-Unis, de mémoire, je crois que ça doit être plus de 280 millions d'habitants. Alors, il y a une gestion par État, mais c'est-à-dire que quand même, ça fait beaucoup, beaucoup de Chromebooks sortis des usines, utilisés dans les mains de nos jeunes chérubins, qui sont parfois pas forcément les plus doux du monde. Mais en tout cas, ça a permis de faire une très grosse croissance et que les gens puissent tester.
Ouais, une croissance tellement impressionnante, une croissance à trois chiffres, c'est assez rare hein, pour en parler. Entre 2019 et 2021, presque 300% d'évolution, 275% de vente de Chromebook en plus. Donc c'est vraiment étonnant et on le doit en partie à leur prix. Hein. En moyenne, les Chromebooks à cette époque-là coûtaient aux alentours de 250, 200, moins de 300 euros en fait. On peut toujours d'ailleurs hein, trouver des Chromebooks de bonne facture. Alors forcément, il va falloir faire des compromis sur certains points. Évidemment, on ne pourra pas avoir de l'aluminium partout, on ne pourra pas avoir les plus grands écrans du marché, mais ceci dit, on a trouvé en tout cas des Chromebooks à prix très très abordables et c'est ce qui a fait leur succès hein, finalement. Et comme le dit très bien l'enquête du Pirge, P-I-R-G, les Chromebooks ont eu un très très gros succès et aujourd'hui, hein, c'est toujours ainsi, hein, les Chromebooks sont toujours des produits qui se vendent très très bien. On a vraiment une gamme de plus en plus étendue qui correspond à tous les utilisateurs, donc comme pouvait le dire Didier, à Lucette et Tonton Albert, tout le monde peut avoir son Chromebook à des prix hyper intéressants et toi comme moi, on a des Chromebooks qui datent un peu et qui fonctionne toujours très bien et on n'a pas forcément payé très très cher à l'époque.
Non, 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 exactement.
Alors on continue, donc clairement là on est d'accord avec l'enquête, hein. Les Chromebooks ont connu un super redémarrage, hein, parce que ça fait un petit moment déjà que ça existe. Dans l'article, hein, dans les notes de l'émission, vous retrouverez des courbes et des liens de tout ce qu'on est en train de citer. Aujourd'hui, on s'est appuyé sur plein d'études, plein de liens pour essayer d'être le plus objectif possible. Donc, on va vous les donner parce que ça me semble être important de rester objectif, même si c'est parfois un peu compliqué quand c'est des produits de cœur. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Dominique qui viennent de rentrer dans l'Assemblée. Bonsoir à vous tous. Décidément, ce soir, on réunit tous les fans de Chrome OS, donc ça, c'est parfait. Les Chromebooks, alors c'est là où qu'on va commencer à se chauffer un petit peu les oreilles. Les Chromebooks ont une durée de vie plus courte que les autres ordinateurs portables. C'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête. Hein. L'enquête nous dit que les Chromebooks ont une durée de vie en moyenne de 2,5 ans, soit moins que la durée des vies moyennes des ordinateurs portables traditionnels. Qu'est-ce que tu peux, Sylvain, puisque c'est ça qui t'avait le plus marqué lors de la préparation, qu'est-ce que tu peux sortir de... Est-ce que tu as déjà une idée de ce que ça veut dire et si cela semble juste et peut-être universel?
Alors, ce qui m'avait surtout marqué, c'est qu'on peut faire tout faire dire aux chiffres, en fait, dans l'absolu. Et là où je trouve que c'est un petit peu dommage, je ne suis pas contre le fait qu'un chiffre soit réel, c'est juste dans le fait de donner toujours du contexte à ce qui est annoncé. Et quand on annonce la durée de vie d'un Chromebook en disant 2 ans et demi, ça laisse supposer qu'un particulier, comme un professionnel ou comme un enfant dans l'éducation, auront une même durée de vie. Et là, effectivement, le rapport est vraiment centré sur l'éducation. Et honnêtement, souvent, quand on est sur ce genre de produits-là, qui sont des produits, on va dire, vraiment plutôt bureautiques, qui vont être des produits d'entrée de gamme,
je suis obligé de t'arrêter.
Mais c'est Jean-Luc qui va me couper. J'ai l'habitude.
Jean-Luc t'a coupé. Jean-Luc, alors, vous le savez, vous pouvez nous soutenir. Je l'ai dit au début de l'émission, c'est priorité au direct. Vous en êtes maintenant tous informés. À chaque fois qu'on nous fait un don en direct sur YouTube, sur toutes les plateformes qui existent autour de nous et qu'on arrive à la voir en live, on est obligé de le mettre en avant. Et encore une fois, Jean-Luc vient nous régaler d'un don toujours impressionnant. Merci à toi, Jean-Luc. Je sais plus quoi dire, je t'enverrai. Si, je sais quoi dire. Je pense que tu l'as bien mérité, ce mug. Hein. Je sais pas si tu en as déjà un, mais t'hésites pas. Tu m'appelles et tu m'envoies.
Il l'a acheté 14 fois. Il l'a acheté. De base,
franchement, merci beaucoup. Faites comme Jean-Luc, si vous pouvez nous soutenir financièrement, bah allez-y, faites sur YouTube, vous pouvez nous faire des dons. Allez sur patreon.com/mycrombook également si vous voulez nous soutenir. Et puis, si vous ne pouvez pas ou vous n'avez pas l'opportunité de nous soutenir financièrement, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, nous partager dans tous les réseaux sociaux possibles et imaginables pour qu'on ait plus de Jean-Luc avec nous, même si un seul Jean-Luc, c'est déjà exceptionnel. Mais imaginons, on en aurait 1000. Tu te rends compte, 1000 Jean-Luc, 10 Jean-Luc, ça serait juste énorme. Donc, merci à toi, Jean-Luc. Je te laisse afficher jusqu'à ce qu'il s'efface tout seul sur l'écran. Je te redonne la parole, Sylvain, excuse-moi, excuse-nous, mais c'était pour la bonne cause.
Avec plaisir, puis j'ai l'habitude. J'ai su que quand Jean-Luc arrivait, il me couperait et je l'accepte avec plaisir. Bienvenue à toi, en tout cas. Et voilà, payer un mug 50 balles tous les 15 jours, voilà, tu l'as quand même. C'est quand même cher le mug, mais bravo à toi.
Et ouais, mais je vais le signer derrière. Je signerai à l'arrière.
Exactement. Et en tout cas, voilà, pour continuer, c'était surtout de dire, dans le domaine de l'éducation, sur des modèles entrée de gamme, spécialement bureautique, mais dans les mains de différents enfants, ça me choque pas plus que ça, en fait, d'annoncer des délais comme 2 ans et demi. Disons qu'il vaut mieux le contextualiser. Je suis à peu près sûr que dans un domaine professionnel ou d'éducation, en règle générale, tout écosystème confondu, les modèles, je pense pas qu'ils durent beaucoup plus longtemps. Et là où je, moi, trouvais ça dommage, c'est que dans le rapport, vous pourrez aller voir ce qui est indiqué. Les chiffres sont sûrement vrais, mais on n'explique pas vraiment et on laisse comme une espèce d'opacité de laisser supposer que c'est chaque personne qui a un Chromebook aura une durée de vie de 2 ans et demi. Non, je ne suis pas quelqu'un qui fait spécialement attention. Comme vous le savez, je casse à peu près les écrans de tous mes téléphones, des Chromebooks ou quoi que ce soit. Globalement, je suis une catastrophe et mes Chromebooks durent. Donc voilà, je ne tiens pas à dire que ce qu'ils disent est de la merde. C'est juste qu'il faut pour moi donner du sens à ce qui est dit et que dans ce contexte-là d'éducation, dans les mains de chérubins, pas forcément tout le temps très souple, on va dire, et très doux, et avec des modèles qui ne sont pas des modèles aluminium ou quoi que ce soit, oui, ça peut se justifier effectivement qu'une durée de vie soit plus, soit pas forcément plus longue que 2 ans et demi. Ça reste mon point de vue.
Ouais. Alors, Thierry nous demande une bonne question, on entend quoi exactement par durée de vie?
Alors justement, c'est là où concrètement, Le rapport, pour moi, est pas très clair. C'est que on cite une durée de vie, mais ils n'expriment pas exactement ce qu'ils expliquent comme durée de vie. On en reparlera après dans les mises à jour de matériel. Mais c'est en gros, selon ce que moi j'ai compris, Nico a peut-être compris autre chose, ils estiment qu'au bout de 2 ans et demi, il est plus sur mise à disposition des élèves, il est à la casse, il n'est plus disponible et un autre doit remplacer ce Chromebook-là. Sa durée de vie, 2 ans et demi, et après… RIP, cimetière Google, concrètement. C'est moi, ça. Je l'ai compris comme ça.
Tu vois, on est plusieurs. Donc, j'apprends que Jean-Luc n'a pas le mug. Donc, je vais de ce pas en faire un. Il nous dit en même temps que la région Île-de-France change de PC tous les 5 ans. Donc, PC, on est d'accord. Il n'a pas parlé de Chromebook. Un ordinateur dans le milieu éducatif change régulièrement parce qu'on le sait pertinemment. Ça a une durée de vie plus faible que toi et moi puisqu'on est plus soigneux. J'ai mis dans les commentaires qu'il y a un sport à la mode dans les écoles, c'est le jeté de cartable. Je ne sais pas si tu te souviens de ta scolarité, mais quand tu étais jeune, je ne suis pas sûr que ton cartable, tu posais toujours délicatement avant d'aller à la récréation. Souvent, c'est encore le cas. On jette notre cartable avec l'ordinateur dedans. Donc forcément, ça va faire du mal à l'appareil, hein. Et je suis allé un petit peu plus loin, je suis allé chercher, savoir si c'était une norme, si combien de temps duraient les autres.
Bon, bah, c'est ce que j'allais dire, c'est là où c'est intéressant.
Jean-Luc nous le dit, ouais. Jean-Luc nous dit qu'il change en moyenne tous les 5 ans, et en l'occurrence, la moyenne de vie d'un ordinateur, d'un portable, attention, confondons pas portable et bureau, ordinateur fixe, ordinateur de bureau, portable tient entre 3 et 5 ans en moyenne dans un établissement scolaire. Donc, 3 et 5 ans, tous les 5 ans, c'est changé parce que la norme change, les puissances changent, on a besoin de nouveaux matériels parce qu'on a besoin de nouveaux outils, ils ne sont pas toujours tous adaptés. Et puis, un ordinateur portable, c'est plus fragile qu'un ordinateur physique fixe. Donc, du coup, il y a nouvelle technologie, besoin de performances supplémentaires, besoin peut-être de problématiques de virus liées à l'utilisateur qui télécharge des choses inutilement. Et puis évidemment, l'obsolescence des pièces, tout simplement. Le produit n'a pas une durée de vie indéfinie. Et donc, en moyenne, c'est 3 à 5 ans. Donc, je source, vous irez voir dans les commentaires, dans les notes de l'émission lundi soir, j'ai mis un site qui référence les durées de vie des ordinateurs.
3 à 5 ans aux États-Unis, parce que en fait, j'essaye vraiment de faire une distinction entre Europe et potentiellement là où l'article a été fait au niveau géolocalisation.
Alors, j'ai pas trouvé, mais c'était, il précisait pas forcément la France. Tant que c'était pas précisé, je me suis dit potentiellement ça peut être au niveau mondial.
Mondial, ouais.
J'ai pas de doute qu'on ait tous les mêmes élèves un petit peu partout.
Les mêmes pareil. Élèves, les mêmes normes, les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes utilisations. C'est là où En fait, annoncer des chiffres, il faut comparer avec d'autres écosystèmes qui fonctionnent de la même manière. Maintenant, s'il est avéré après analyse qu'effectivement c'est plus court, bon bah là on pourra essayer d'investiguer pour comprendre pourquoi c'est plus court pour le coup. Mais c'est à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment d'informations plus précises. On a été essayer de chercher, mais c'est très difficile d'obtenir des choses en très peu de temps, surtout.
C'est ça.
Mais voilà, je trouve que c'est vraiment dommage cette explication partielle pour moi.
Alors, les Chromebooks, à ne pas confondre, Yagelt nous le dit bien, est-ce que ce n'est pas lié à la fin de la durée de mise à jour, donc la fameuse EOL, End of Life, qui est préprogrammée par Google. Ça fait partie de l'enquête, on reviendra un petit peu dessus, mais les 2 à 5 ans, ça fait, évidemment, ce n'est pas ça, puisque en 2020, la durée de vie d'un Chromebook, la durée des mises à jour était de plus de, dans mes souvenirs, 4-5 ans. À revenir, on verra un petit peu plus tard.
Était déjà passé sur les 8 ans, mais on reviendra parce qu'il y a justement, effectivement, ils en parlent. Donc,
ouais. Une autre chose qui m'a un peu interpellé dans le doc, alors pour info, il fait quand même 27 pages, hein, l'enquête est assez fournie, donc allez la voir, elle est intéressante à lire. Il n'y a pas que des choses fausses, mais il y a des choses qui me semblent étonnantes. Il nous donne un exemple de Windows XP, donc il compare les Chromebooks, donc on parle du Chromebook, c'est-à-dire l'appareil physique, à Windows XP, en disant que Windows XP était supporté par les machines pendant presque 20 ans. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire dessus, Sylvain. Moi, j'ai trouvé ça vraiment étonnant de comparer un système d'exploitation et pas un ordinateur. Est-ce que l'ordinateur que j'ai acheté à ses débuts, quand Windows XP est arrivé, est toujours le même au bout de 20 ans, par exemple ?
Non, mais même, prenons un exemple tout simplement de Windows 10, les caractéristiques en début et en fin de Windows 10 ne sont plus du tout les mêmes et celles recommandées par Windows ne sont plus du tout les mêmes. Et là où pour moi, c'est encore une fois, c'est opaque, c'est de mélanger un peu un écosystème avec un matériel, de mélanger en gros du hardware et du software, puis faire un comparatif avec un système d'exploitation qui date d'il y a 20 ans en disant ça a duré pendant 20 ans. Oui, effectivement, ça a sûrement duré pendant 20 ans et bravo à Windows de l'avoir fait. Windows XP est une masterclass quand même, ça a été utilisé pendant très longtemps. Mais est-ce que vraiment les gens sont restés 20 ans sur Windows XP ? Ça m'étonnerait également. Et comparons ce qui est comparable. C'est difficile en fait de tout mélanger et de dire oui, bah à la fin, vous voyez, eux, ils l'ont fait, donc vous devriez être en capacité de le faire. Oui, mais dans ces cas-là, je pourrais parler de Windows Vista ou de Windows 8 et vous donner des chiffres totalement différents et pourtant, ce serait la même société. Donc, je trouve ça vraiment compliqué de faire des comparatifs qui ne sont pas dans les mêmes secteurs et surtout de comparer avec des chiffres, bien évidemment, qui sont arrangeants et qui sont orientés pour moi. Et même si potentiellement, ils sont vrais sur certaines choses et que bravo à Windows sur certains éléments et d'avoir pu permettre à l'informatique en grande partie d'être ce qu'elle est aujourd'hui aussi, et ça, il ne faut pas le nier, mais c'est très difficile d'être à charge sur des choses qui ne sont pas comparables pour moi.
Et ce qui est assez amusant, c'est que si on devait comparer Chrome OS à Windows, on parle de deux systèmes d'exploitation, Chrome OS est mis à jour depuis 11 ans. Il n'y a pas de numéro finalement comme Windows XP, il n'y a pas de version particulière, c'est juste des évolutions du système d'exploitation. Donc finalement, Chrome OS, ça fait 11 ans que ça existe, et ça a toujours été mis à jour depuis que ça existe. Comme Windows XP, c'est arrêté. Par contre, tous ceux qui ont Windows XP aujourd'hui n'ont plus de mise à jour. Bon, du coup, on va peut-être attendre. Chrome OS aura peut-être un jour 20 ans et 20 ans de mise à jour, t'imagines ? Mais pas avec le même appareil, forcément, puisqu'à un moment, ce qui était vrai aujourd'hui ne sera pas dans 20 ans, c'est sûr. Je suis persuadé qu'on n'aura pas le même ordinateur dans 20 ans que celui que j'ai aujourd'hui sur mon bureau.
Bah, écoute, si quelqu'un arrive à garder 20 ans le même ordinateur et honnêtement… à l'utiliser et de manière fonctionnelle, c'est-à-dire sans mettre une heure et demie à le démarrer ou ouvrir une page… Là, franchement, chapeau, je lui offre aussi, moi, un mug personnalisé, tu vois, et je serais content de
rendez-vous dans 20 ans, donc.
Bien, exactement.
OK. Mais voilà, donc pas mal de choses assez intrigantes dans l'enquête, qui m'étonnent beaucoup, en tout cas. Donc, venons-en aux fameuses mises à jour, la fin de mise à jour, les EOL, donc les fins de vie programmées des Chromebooks. C'est expliqué comme ça, je cite, hein, « Les mises à jour logicielles peuvent parfois entraîner des problèmes de compatibilité avec les applications et les périphériques, ce qui peut rendre les Chromebooks inutilisables. » Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sylvain. Est-ce qu'un Chromebook est inutilisable lorsque tu as fait une mise à jour ? Et est-ce qu'il y a une solution au cas où il soit vraiment inutilisable ?
Bah, c'est ça. C'est encore une fois, alors je vais me répéter, hein, j'aurais dû enregistrer la phrase, mais c'est un peu le côté fin de vie dont on parlait avec Thierry tout à l'heure. C'est-à-dire, on a l'impression que passer les 8 ans, c'est on jette le Chromebook. C'est comme s'il ne s'allumait plus. C'est-à-dire, ça laisse supposer, pour quelqu'un qui ne connaît pas Chrome OS, qu'à la fin des 8 ans, le PC ne s'allume plus, ou alors il s'allume, on vous dit désolé, vous ne pouvez plus l'utiliser. Ça laisse vraiment supposer ça. Déjà, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai toujours mon petit CB131. Je suis allé chez Thierry il y a 10 jours, je l'avais bloqué en version 93 et on a pu travailler dessus et ça marche encore très bien. Alors, effectivement, il n'y aura plus d'évolution, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité en l'état, mais il fonctionne toujours très bien. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Donc, le côté 8 ans. Voilà, ça ne va pas s'arrêter. Eux expliquent qu'en gros, le fait d'annoncer une durée de fin de vie, c'est une obsolescence et à la fin, ce n'est plus utilisable. Je crois que c'est Frandroid qui a dit que Mac OS en moyenne, et je crois que l'Avatenium en a parlé, ça doit être 7 ans de mise à jour. Oui, peut-être qu'ils n'annoncent pas de date, effectivement, mais moi, la seule chose que je constate, c'est que mon CB131 que j'ai eu en 2015, 8 ans après, il est peut-être plus mis à jour, mais il est toujours aussi rapide. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour tous les ordinateurs et surtout, il s'allume toujours. Et on a d'autres solutions dont je te laisserai parler et je pourrais même faire parler Didier et lui donner une tribune complète sur du Lacrosse et d'autres voilà, solutions qui existent. Mais c'est surtout. C'est vraiment à charge. Quelqu'un qui connaît les Chromebooks qui va se dire, OK, 8 ans, moi personnellement, je garderai jamais un ordinateur 8 ans, c'est quasiment impossible. Je pense que le pourcentage de gens qui garderaient le même matériel 8 ans est très faible, mais ça peut arriver, attention, donc ça c'est très bien. Au bout de 8 ans, ça n'est pas inutilisable, mais il y a d'autres solutions. Donc, qu'est-ce que toi tu peux nous en dire par rapport à
Alors,
ça?
il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'effectivement, Google annonce dès l'achat de ton appareil que dans 8 ans, il n'y aura très certainement plus de mise à jour du système d'exploitation. Et il l'explique, hein, c'est dans The Verge, hein, je suis allé choper ça. Google s'est exprimé dessus. Je vous le dis, hein, les mises à jour régulières du logiciel Chromebook ajoutent de nouvelles fonctionnalités et améliorent la sécurité des appareils toutes les 4 semaines. Donc déjà, c'est assez exceptionnel, hein. Toutes les 4 semaines, Chrome OS reçoit des mises à jour. Plus ou moins 4 semaines. De temps en temps, il y a des petits loupés sur quelques semaines, mais ça marche plutôt bien. Ce qui rend l'expérience logicielle et garantit que tous les appareils les plus anciens continuent à fonctionner de manière sécurisée et fiable jusqu'à ce que les limitations matérielles rendent extrêmement difficile la fourniture de mises à jour. Autrement dit, à un moment donné, le hardware, le matériel, les composants intégrant un Chromebook ne sont plus suffisants pour faire tourner Chrome OS. Et c'est en ça que Google est critiqué finalement. Ils disent, on n'est pas certain dans 8 ans que tel ou tel processeur, que cette quantité de RAM ou que ce type d'écran ou ce type de clavier soit supporté encore par Chrome OS parce qu'on aura ajouté de nouvelles fonctionnalités. Et aujourd'hui, quand on achète un produit, on ne l'achète pas pour les fonctionnalités de dans 8 ans. On les achète pour les fonctionnalités qu'il y a aujourd'hui, pour l'usage qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, notre usage va changer au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, tu vas peut-être t'en servir d'un simple traitement de texte. Demain, qu'est-ce qui va être? Tu vas faire du traitement de vidéo, peut-être de la musique, qui sait? Donc ton usage en informatique va peut-être évoluer en 8 ans. 8 ans, c'est long quand même en informatique, hein.
Ouais, puis il y a 8 ans, et puis il faut voir comment ta machine fonctionne après 8 ans. C'est-à-dire qu'après 8 ans, un Chromebook, en règle générale, de par son architecture, le fait que ça soit du SSD ou de l'eMMC en disque dur, ça fonctionne toujours de manière rapide et fluide. Peut-être un tout petit peu moins que 8 ans auparavant, mais ça reste stable. Ce n'est pas forcément le cas partout. Et encore une fois, comme tu dis, il y a des limites matérielles. Et puis, à un moment, voilà, quand on compare, oui, potentiellement, si on pouvait mettre quelque chose à jour pendant 20 ans, dans quelle mesure, dans quelles conditions, et encore une fois, ne pas tout mélanger sur la partie logicielle et matérielle. Parce qu'on peut éventuellement, par exemple, parler de Linux avec le container Linux. Si mes souvenirs sont bons, et tu me le dis si je me trompe, il est maintenant différencié de la partie, on va dire, Chrome. Et ce qui fait que lui, par exemple, peut continuer à être mis à jour. Et si vous avez, par exemple, de l'utilisation de produits Linux, ça peut continuer malgré la
Oui,
fin
tout
des
à
8
fait.
ans.
Et donc, dans Chrome OS, donc, il y a eu beaucoup d'évolutions, hein. On en parlait tout à l'heure, en 2016, enfin jusqu'en 2016, je crois, oui, les Chromebooks avaient, non, 2020, les Chromebooks avaient une durée de vie, enfin une durée de mise à jour de 5 ans. peut-être que c'est là le problème, c'est que Google en parlait de end of life, donc la fin de la vie du Chromebook. Ce qui n'est pas le cas, c'était la fin des mises à jour. Peut-être une erreur de communication, ceci dit, ça ne m'étonnerait pas trop de Google de mal communiquer sur un produit. Feu Stadia m'en dira des nouvelles. C'est peut-être ça leur problématique. Bon, entre-temps, ils ont changé pas mal de choses.
Pas que ça. Et je pense qu'il y a un problème de communication, mais s'il n'y en avait pas, ce ne serait pas Google, très clairement. Je veux dire. Et je pense que c'est juste qu'ils ont totalement changé les règles d'annonce.
Oui.
C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, personne n'annonçait la fin de vie d'un appareil. Ils ont été les premiers à dire « Nos appareils, on vous donne le mois précis d'arrêt. » Donc, tu changes les règles, tu annonces des choses que les autres n'annoncent pas, mais tu ne les annonces pas forcément très bien. Donc, forcément… Derrière, tu peux assez facilement te faire taper dessus. Ça peut te, voilà, donner. Tu peux tendre la joue assez rapidement.
Ouais, effectivement. Bon, entre-temps, donc on est passé de 5 ans à 8 ans de mise à jour quand même, avec des mises à jour beaucoup plus régulières. Auparavant, c'était 8 semaines en moyenne. C'est passé à 4 semaines de mise à jour. Et on a gagné en 3 ou 4 ans de mise à jour de Chrome OS, donc de ton Chromebook. Aujourd'hui, quand tu achètes un Chromebook neuf qui a été fabriqué et conçu cette année, il va durer 8 ans. Donc, c'est déjà énorme. Ensuite, Google a proposé, parce qu'en fait, pour les entreprises et les milieux scolaires, c'était compliqué de recevoir des mises à jour toutes les 4 semaines parce qu'on a un usage bien particulier dans une entreprise, par exemple. En milieu scolaire, c'est peut-être à peine moins important, mais en entreprise, c'est important. Tu utilises un outil, si du jour au lendemain, parce qu'il y a une mise à jour qui est faite, cet outil ne fonctionne pas et que tu n'as pas le temps et l'opportunité de faire une migration de ton outil pour accepter ça, ça peut devenir complexe au niveau financier. Heureusement, Google a bloqué, alors j'ai plus la date en tête, je vous ai mis le lien de toute façon dans les notes de l'émission, proposé de bloquer les mises à jour manuellement. Tu coches, tu vas dans les paramètres de Chrome OS et tu peux bloquer les mises à jour automatiques et décider de les faire toi-même. Donc ça, c'est un gros changement également parce que ça dénote justement sur les problèmes liés aux mises à jour. Tu peux déjà attendre que les autres essuyent des plâtres avant de faire ta mise à jour chez toi tranquillement. Ça, c'est plutôt intéressant. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi disponible pour les particuliers. Donc, entreprises, milieu scolaire et particuliers, on peut tous choisir de supprimer, de bloquer les mises à jour automatiques.
C'est ça.
Je ne conseille pas de le faire pour les particuliers.
Moi, par exemple, tu vois, je vibre un peu moins avec les mises à jour toutes les 4 semaines que toutes les 8 semaines.
Parce qu'il y en a moins.
Il y en a moins et puis forcément, bah, elles sont souvent un petit peu plus légères. Et donc, il y en a qui sont très bonnes et puis il y en a, nous, pour essayer de rentrer vraiment les mains dans le cambouis, il y en a où il n'y a pas grand-chose. Au moins, toutes les 8 semaines, il y avait un peu plus. Après, voilà, ça, c'est différentes écoles directement, mais je n'ai pas suffisamment de poids auprès de Google pour trouver un juste milieu. Donc, je suis le mouvement.
D'autres évolutions dans les mises à jour, c'est qu'avant, la mise à jour de Chrome OS faisait la mise à jour de tout ton appareil. Donc, des micro-logiciels liés à ton matériel, à ton hardware. Ça faisait la mise à jour de ton navigateur. Ça faisait le navigateur Chrome, évidemment. Et ça faisait la mise à jour de ton système d'exploitation. 3 en 1. Toi, c'est le 3 en 1 de chez Google. Problème, si après ces 8 ans, la mise à jour n'est plus faite, on perd pas mal de mises à jour de sécurité, on perd pas mal de confort également. Donc Google a supprimé les mises à jour automatiques si nous le souhaitons et ils ont séparé la mise à jour des micro-logiciels. Ça veut dire que dans le futur, même si Chrome OS n'est plus mis à jour, tu pourras toujours mettre à jour le micro-logiciel. Ça peut être intéressant, tu te souviens des failles Meltdown et Spectre qui avaient défrayé les chroniques, je crois, en 2018-2019, où c'était une mise à jour microprocesseur. Et bien là, tu pourras quand même la faire si Intel a décidé de pousser une mise à jour. Donc directement, depuis, pareil, les paramètres de Chrome OS, tu vas pouvoir pousser une mise à jour micro-logicielle bien spécifique. Ça, c'est juste exceptionnel quand même. Tu vois, on n'est plus… Alors, ça fait plein de mises à jour différentes, attention, mais on peut les faire indépendamment les unes des autres. Et il y en a une, alors là, je l'entends dans l'Assemblée, tout le monde, ça résonne, tout le monde me le dit, oui, mais après les 8 ans, on peut toujours mettre son navigateur à jour, et pour une bonne raison, parce que naviguer sur Internet, ça reste dangereux. clairement. Tu mets tes coordonnées de carte bancaire, tu mets tous tes mots de passe, tout Internet, c'est tout de toi. Donc, ça serait bien que ça soit sécurisé et que ça soit pas tous les méchants qui récupèrent tes données. Et donc, Google a mis à disposition un autre navigateur web qui s'appelle Lacrosse. J'ai plus l'acronyme en tête, vous irez le voir, j'ai mis le lien dans les notes de l'émission. Lacrosse permet donc d'avoir un navigateur Chrome, le navigateur Chrome. D'ailleurs, aujourd'hui, quand il est sur votre ordinateur, vous pouvez déjà le télécharger et l'essayer. Ça permet d'avoir, par exemple, deux sessions différentes ouvertes en même temps. T'es sur, moi, je le fais comme ça. Et donc, l'icône de Lacrosse est l'icône jaune comme l'icône Canary.
Canary, exactement.
Voilà, pour en phase de test. Donc, ça va permettre des mises à jour de sécurité pour le surf sur Internet, même donc après la fin des mises à jour de Chrome OS. Donc, en gros, vous pourrez continuer à utiliser votre Chromebook. Donc, vous n'allez pas pouvoir installer une nouvelle solution logicielle parce que Google ne le permettra peut-être pas. Vous n'allez par contre pas être en danger en naviguant sur Internet grâce à Lacrosse et en protégeant vos mises à jour hardware avec les micro-logiciels. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Est-ce qu'on pourrait rajouter des choses ou est-ce qu'il y aurait des choses qui justement pourraient nous accrocher un petit peu et nous dire « ouais, c'est gentil, mais quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux ?»
Alors, est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Oui. C'est possible. Maintenant, pour moi, honnêtement, 8 ans, je me suis toujours dit que c'était une bonne date. 5 ans, potentiellement, c'était peut-être un petit peu juste, effectivement. Passer un gap de 3 ans, je trouve ça quand même relativement bon. Surtout quand tu peux maintenir avec Lacrosse, avec les conteneurs Linux sous Debian et avec la possibilité de mettre à jour le micro-logiciel. Voilà, c'est juste de dire, passer les 8 ans, vous n'avez pas besoin de jeter votre Chromebook. Vous ne pourrez peut-être pas le revendre facilement dans le marché de l'occasion. C'est plus difficile, je le conçois. Mais c'est toujours utilisable, je le fais. Et c'est là, encore une fois, où c'était pour moi important qu'on explique pour les gens qui s'y connaissent. Alors là, on n'a que des connaisseurs, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même intéressé, donc ça ne vous surprend pas. Mais ce rapport-là a été un peu... Enfin, tout le monde a donné son avis, tout le monde a donné son point de vue, surtout des gens qui étaient sur d'autres écosystèmes, c'était beaucoup plus drôle. Et on dit, vous avez vu, limite, oh là là, l'écologie, c'est un... On s'imaginait déjà une montagne de plastique passer 8 ans avec quelqu'un qui pleure en se disant le truc n'est plus utilisable. Voilà, donc c'est déjà très bien, ça n'est pas parfait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a des évolutions. C'est-à-dire que sur les 3 dernières années, il y a des évolutions, ils essayent petit à petit d'améliorer le système. C'est un système qui est plus récent que d'autres écosystèmes. Alors, il n'a pas essuyé les plâtres du début de l'informatique, donc il a quand même l'expérience de ce qu'ont fait les autres. Mais pour moi, du moment qu'il y a de l'évolution, c'est que les choses sont quand même connues par Google. Maintenant, ce serait bien que Google communique peut-être un peu mieux. Mais bon, ça, en vrai, le jour où Google communiquera bien, je pense que même nous, ça nous surprendra trop. Ça ne plaira pas. On se dira, ça ne va pas.
Ça a changé.
Non, ça a changé, Google.
Donc, pour répondre à Yagelt, justement, Lacrosse, est-ce que Lacrosse, il faut une version minimale pour pouvoir l'utiliser ? Je vais répondre non, pas forcément. Il faut juste que tu puisses activer le container Linux via la page Chrome OS, via la page des paramètres de Chrome OS, pardon, dans les paramètres de développeur. Et ensuite, tu as juste à activer Lacrosse. Alors, pour l'instant, Didier va peut-être nous corriger, mais il me semble que c'est encore un flag, donc c'est encore en version expérimentale. Mais j'ai pas de doute que dans 8 ans, il sera plus expérimental. Enfin, j'espère, en tout cas. On parle d'écologie. Oui, effectivement, parce que, effectivement, cette montagne de PC, cette montagne de plastique, qu'en fait-on ? Eh ben, ça fait partie de l'enquête, justement, qui a été faite. Je cite à nouveau l'enquête, « Le coût des réparations des Chromebooks peut être plus élevé que le coût d'achat initial. » En même temps, un Chromebook qui vaut 200 euros, trouver moins cher, un écran moins cher, autre chose comme ça, plus la réparation, des fois, ça peut être compliqué. Je vous renverrai peut-être vers les smartphones. La plupart des pièces sont intégrées dans la carte mère et nécessitent donc un remplacement complet. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je ne suis pas très PC à la base. Je ne suis pas très Mac non plus. Mais dans mes souvenirs, à l'époque où j'ouvrais un ordinateur portable, toutes les pièces étaient soudées, moi. Est-ce que ça a changé ? Est-ce que c'est uniquement les Chromebooks qui sont comme ça où on ne peut plus rien changer ou il y a une évolution entre-temps ?
À l'époque, ce n'était pas forcément tout le temps soudé. Ça l'est de plus en plus, tout simplement parce que ça permet de gagner en épaisseur. Maintenant... Comme tu dis, en fait, la chose, c'est que dans le domaine de l'éducation, si tu prends des PC et des Chromebooks, pardon, bas de gamme, et que derrière, effectivement, tu dois changer, rien que la main d'œuvre plus le fait de pouvoir changer, tu te retrouves facilement à quelque chose qui est plus cher. Je pense que toutes les marques, c'est à peu près la même chose. J'ai quand même, à mon avis, la conviction qu'il y a peut-être des pièces qui sont plus faciles à trouver dans d'autres écosystèmes. Il y a peut-être des vis propriétaires, mais ça, on en reparlera après, justement, parce que Google a travaillé dessus avec certaines marques. Et je pense que le marché des pièces est peut-être, à l'heure actuelle, effectivement plus difficile à trouver en fonction des pays et autres, parce qu'il y a moins de matériel et qu'on est à une course maintenant. Le PC doit être le plus léger, le plus fin, le plus petit possible pour certains, et effectivement, bah voilà, le fait de souder fait que c'est compliqué. Je pense pas que ça soit un problème spécifiquement lié qu'au Chromebook. Je pense que pour l'instant ils peuvent s'améliorer et que d'autres écosystèmes sont peut-être un petit peu mieux en fonction des modèles, mais encore une fois, c'est très très difficile de tout comparer, et ils sont allés assez vite en besogne en disant on ne donne pas de chiffres des autres côtés, mais on va dire que c'est beaucoup.
Ouais. Juste une petite correction, une petite erreur de ma part. Didier nous dit que la crosse n'a rien à voir avec Linux. Il suffit juste d'activer le flag, la crosse, trait d'union support. Donc merci à toi, Didier, pour ce correctif qui sera sûrement utile à plein de monde. Je vous invite à le tester dès maintenant. Alors pour parler des réparations, tu le dis très bien. Souviens-toi, on a eu Karim Dasser qui était venu nous voir, nous faire un petit coucou sur le CKB Show et qui nous avait parlé de la gamme de PC Chromebook Vero. Cette gamme de produits qui a été fait en matière recyclée et qui ont intégré la réparation de l'appareil. C'est-à-dire que, justement, tu l'as dit, les vis propriétaires n'existent pas. On est sur du cruciforme classique. Tout le monde a un cruciforme chez lui ou le dos d'une petite cuillère. Ça marche aussi, hein, d'ailleurs. Et puis, à l'intérieur, tout est détachable dans la mesure du possible. Effectivement, on est sur des choses très fines. Donc, on ne peut pas avoir des produits qui pèse une tonne. D'ailleurs, je sais pas, j'aimerais démonter un MacBook pour voir la facilité de changer les pièces. En l'occurrence, sur le Vero, on peut changer le disque dur, on peut changer la RAM. Après, est-ce qu'on va changer le processeur? Je suis pas certain, mais on va le faire?
Non, les pièces d'usure. Mais ouais. Le Vero, si vous regardez, moi je l'ai vu, je l'ai eu dans mes mains, le Vero, il est plus lourd et il est plus épais.
C'est ça.
Parce que justement, la partie batterie, la partie disque dur, la partie, toute la partie démontage, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de vis propriétaire, il y a vraiment un système qui fait que, voilà, la personne qui l'achète part du principe qu'il sera plus lourd et un peu plus épais. Mais, encore une fois, taper en disant la partie recyclable, c'est pas bien, ça coûte cher, c'est difficile à trouver les pièces, c'est compliqué, mais ne pas dire qu'entre il y a quelques années et maintenant, il y a des produits vraiment spécifiques pour le recyclage qui existent, qui sont mis à disposition. Et parlons un peu quand même, Acer, c'est plus de la moitié du marché mondial des Chromebooks. Ouais. Déjà, le rapport cite des références en citant Acer, alors qu'en fait, de mémoire, c'était un HP ou un Asus. Donc, il y a déjà des inversions de marque. Et ils vont citer des modèles qui sont très peu utilisés ou qui ont 3 ou 4 ans et qui sont des modèles entrée de gamme. C'est très difficile de dire, je vais trouver. Si demain, je te dis, prends un Wiko d'il y a 4 ans, est-ce que tu vas trouver des pièces de rechange facilement? Je ne suis pas sûr non plus que tu les trouves.
Maintenant, tiens, justement, tu une belle transition. Partons sur le smartphone. J'ai vu que Thierry en parlait aussi dans le chat. C'est l'exemple type peut-être du produit non réparable ou difficilement réparable soi-même, parce que c'est réparable, mais pas directement. Un smartphone aujourd'hui, et comme la grande majorité des appareils électroniques, la réparation est souvent très coûteuse. Je suis allé voir sur un produit qui se vend très très bien sur le marché actuellement en France, c'est l'iPhone 14 qui a une belle référence. Le coût de l'écran, de la réparation de l'écran, c'est pas toi qui achète l'écran et qui le monte. Et d'ailleurs, je vais vous demander d'éviter de faire ça pour éviter d'avoir des problèmes de garantie ou des problèmes de sécurité. Mais rien que l'écran à réparer, c'est 365€. Alors, tu vas me dire, oui, mais il vaut 1000€. Bah, c'est quand même plus d'un tiers du prix quand même. Donc, on est sur des produits qui sont fins, comme tu disais. Il faut qu'ils soient légers. Donc, de ce fait, on colle toutes les pièces et ça devient difficile. Donc, ce n'est pas uniquement les Chromebooks qui sont comme ça. D'ailleurs, allez, sur le Vero et peut-être pour que vous ayez un petit peu plus de visibilité dessus. Je vous invite à aller écouter l'épisode 98 du CKB Show où on en parlait avec Karim. Il était très, très intéressant. Il nous a montré ce qu'il en était d'un super Chromebook Vero. Et pour rebondir aussi dessus, Google a même travaillé avec un prestataire, un fabricant, un concepteur de d'ordinateur. Donc, c'est une marque qui s'appelle Framework, qui conçoit des Chromebooks totalement personnalisables, réparables soi-même, avec des outils classiques. Le produit est un petit peu cher pour l'instant parce que ce n'est pas le marché du jour, parce que les gens aiment bien acheter moins cher, le moins cher possible. Alors forcément, quand tu proposes un Chromebook à 1000 euros, les gens ne sont pas forcément fans, mais lui, il est totalement réparable, de l'écran au châssis, à la RAM, enfin tout ce que tu veux. Tu peux mettre des ports USB, en enlever. Bref, je pense que tu l'avais vu, le Framework.
Ouais, j'avais vu, et c'est normal que ça soit cher pour l'instant. Est-ce que ça va après un peu se démocratiser et il va y en avoir de plus en plus? Oui, de toute façon, on le voit, toutes les marques surfent sur l'écologie dorénavant, et on sait que voilà, tout ce qui est matériaux recyclés, c'est très difficile de réparer un PC portable, peu importe les marques, mais il y a des efforts qui sont faits. C'est pas parfait, je pense que, et ça, on en avait parlé avec Nico. J'avais dit, je suis à peu près sûr qu'effectivement, en pièces détachées, si tu veux réparer un clavier ou quoi que ce soit, à mon avis, je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est peut-être un peu plus difficile que sur d'autres marques de pouvoir changer ce genre de pièces, parfois un peu d'usure. Oui, mais encore une fois, comparons ce qui est aussi comparable en durée de vie par rapport au matériel, au nombre de ventes, à l'ancienneté du matériel. Et je pense qu'il y a de gros efforts. Et j'invite Google à continuer, et les autres marques en partenariat avec Google, pour que ça puisse être de mieux en mieux.
Ouais. Et donc quelques pièces, effectivement, je suis d'accord avec l'enquête où on trouve encore difficilement les pièces de rechange pour les changer soi-même. Hein. Donc je suis allé voir sur les différents sites de réparation officiels, hein, chez HP, chez Acer, chez Asus. Tu peux commander des pièces, mais ça reste assez anecdotique. Va falloir que tu ailles fouiller un petit peu sur Amazon. Tu peux trouver des pièces si tu veux, mais c'est pas simple. Ça pourrait être beaucoup plus simple.
Exactement. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un gros travail à faire en Google en partenariat avec les marques pour pouvoir améliorer ça. C'est clair.
Live Athenion nous dit le Lego Chromebook, mais effectivement, le framework, c'est exactement ça. Tant pile, c'est vraiment génial. Hein, ça marche très bien. Il faudrait que tout le monde l'achète. Ça ferait un produit beaucoup moins cher.
C'est ça.
On continue. Une autre montée. Les entreprises de recyclage ne sont souvent pas équipés pour traiter les Chromebooks en fin de vie, car ces appareils sont difficiles à démonter et à recycler. Bon, on vient de le dire, je crois, Sylvain, c'est difficile de faire mieux que le Vero ou que le Framework. On peut les démonter facilement. Et d'ailleurs, Google s'en explique, hein, le passage. Ils expliquaient qu'en passant. En passant à 1000 appareils Chrome OS, ils ont réussi à réduire l'émission de gaz à effet de serre de 90%. Donc, oui, c'est difficile à recycler, mais un Chromebook consomme moins parce que les composants sont peut-être plus anciens parfois, parce qu'on n'a pas besoin d'une puissance aussi importante que sur macOS ou sur Windows ou Linux, puisque c'est conçu pour fonctionner sur de petits processeurs. Donc, des fois, on peut avoir une ou deux générations de retard, ce qui fait que c'est des process plus faciles à mettre en place. Et je suis allé voir un petit peu plus loin. Il y a iFixit, le célèbre site qui démonte tous les appareils, qui s'est exprimé et puis qui lui dit son désaccord total. Hein. Il dit non, la grande majorité de l'impact environnement d'un ordinateur portable se produit lors de la fabrication. Mais évidemment, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que c'est l'usage du Chromebook qui consomme de l'énergie, enfin du CO2, ou est-ce que c'est sa fabrication? Je te laisse se le juge.
Oui, je pense que c'est la fabrication. Et comme tu dis, tu peux avoir des modèles, parce qu'on le sait très bien, les processeurs des Chromebooks. Bon, maintenant, tu as des Chromebooks un peu plus haut de gamme, parce que le gaming arrive, montage audio, vidéo également. Mais à l'époque, tu avais souvent des générations plus anciennes. Et puis, c'est quelque chose qui arrivait sur le marché. Les boîtes qui recyclent et qui démontent étaient habituées depuis des années à travailler avec des marques, à suivre les générations de ces marques-là. Et puis, tu as un autre acteur qui arrive et qui vient un petit peu chambouler aussi tout ça. Il y a un petit peu de temps aussi de mise en place, et puis il y a le nombre de ventes. C'est-à-dire que quand tu passes d'un certain nombre de ventes à 300% de croissance, et que tu te retrouves forcément avec d'un coup, au bout d'un moment, beaucoup plus de matos qui va arriver en recyclage, est-ce qu'ils étaient provisionnés pour pouvoir gérer aussi? Pas forcément. Donc voilà, il y a toujours de la nuance à faire par rapport à ça.
Justement, tu le dis bien, hein, c'est ce que remonte l'enquête, c'est qu'en fait, il y a peu de pièces disponibles. Il y a un exemple dans l'enquête qui dit que il y a une école qui passe une commande pour 100 pièces de parce que c'est une pièce qui casse très souvent. Et le fournisseur lui dit « Non, mais je ne vais pas te le commander parce que je sais que la société va me refuser ma commande de 100 pièces parce qu'ils n'en ont pas en stock. » Voilà la problématique, c'est qu'on n'a pas assez de pièces encore en stock, mais c'est aussi le risque d'avoir un petit marché. Donc forcément, aujourd'hui, les Chromebooks ne pèsent pas très lourd sur le monde global de l'informatique. Le jour où il y en aura plus, il y aura des pièces de rechange. Mais je dirais, c'est un peu la même chose chez Apple. Hein. Si tu ne vas pas chez Apple, ça reste plus complexe, bon, même si tu commences à en trouver beaucoup des pièces. Mais c'était pendant très longtemps assez compliqué. Il fallait aller uniquement chez Apple. D'ailleurs, il n'y avait que Apple qui te faisait une réparation sous garantie. Et si tu n'avais pas le bon écran, par exemple, le Face ID il ne fonctionnait pas, par exemple, parce que ce n'était pas un écran homologué par pour l'empreinte digitale. Ce n'était pas homologué, donc il l'avait simplement shooté. Donc, du coup, plus il y aura de ventes de ces produits-là, plus les produits seront disponibles à l'achat. Et c'est un peu la problématique. Oui, c'est comme tout, une voiture électrique, ça, faut la fabriquer. Ça consomme du CO2 à ce moment-là, mais comparons, comme disait Google, sur 1000 appareils, c'est une économie par rapport aux autres de 90% de moins de gaz à effet de serre. Voilà, après,
tu peux dire qu'il y a trop d'émissions. Enfin, c'est pas un problème, en fait, le fait de dire, de pointer des manques en termes de commandes, en termes de recyclage, aucun problème. Mais il faut pas juste pointer ça. Au bout d'un moment, tu as juste l'impression que il fallait taper sur quelqu'un, il fallait mettre en avant des chiffres et dire, vous avez vu, niveau informatique, ça se passe pas bien. C'est plus difficile de taper sur Apple parce que sinon, niveau contre-attaque, à mon avis, ça tape fort. Windows, je pense qu'ils ont l'habitude et il n'y a pas encore d'écosystème de Meta ou de Facebook, donc je pense sinon ils auraient été les cibles prioritaires, ça aurait été beaucoup plus drôle. Mais en fait, voilà, c'est juste de dire à un moment, ça fait parler, ça fait du buzz, bad buzz, bon buzz pour eux en tout cas, mais ça me dérange. Pas sur les vérités, sur le fait d'orienter les discussions sur des choses qui arrangent seulement, de donner quelques petits points positifs et déglinguer tout le reste. Ça me dérange parce que je suis quelqu'un d'objectif. Si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. Mais si c'est bien, j'aimerais bien aussi qu'on mette en avant les points positifs, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, une petite recommandation du Pirge pour ce problème. Donc, il recommande à Google de doubler la durée de vie moyenne des Chromebooks dans les écoles, donc de passer de 2 ans et demi à 5 ans pour entraîner une réduction de la moitié des émissions liées à la fabrication. Doubler la durée de vie des 3,8 millions de Chromebooks vendus en 2020 pourrait réduire les émissions de 4,6 millions de tonnes de CO2. Donc, c'est juste énorme. Hein. Effectivement, Google les a écoutés avant qu'ils le disent même. Tu vois, ils pensent, c'est des pré-penseurs. Google a augmenté la durée de vie, il est passé à 8 ans. Donc, 2 ans et demi de vie pour un Chromebook, je trouve ça assez dommage.
Changer les enfants aussi.
Les enfants, les éduquer peut-être.
Pour ceux qui ont élevé des enfants, vous avez bien conscience qu'un écran dans les mains, c'est comme un homme qui marche au bord de l'autoroute. La durée de survivabilité n'est pas énorme dans l'esprit. Et même si c'est un cross-call ultra performant et sécurisé, c'est très 2 ans et demi, il y a des moments, c'est peut-être légendaire. Le Chromebook, il arrive au paradis Google, il a une head honneur hein, pour certains. Donc, ça peut être mieux, mais tout dépend du budget. Parce que si demain, les écoles disent on met 2 fois plus et on met des châssis aluminium avec des modèles renforcés, je pense que ça durera plus longtemps. Maintenant, si on dit on vous met que du plastique, moi, je vois avec le Spin 13 et le 314, je pense que le 314, je le fais tomber. Le choc, il va pas le prendre du tout de la même manière pour la même chute, hein, je te le dis direct.
Non, mais effectivement. Mais d'ailleurs, sur les produits Chromebook actuellement, maintenant, on a des produits en normes militaires, justement, tu sais, les M1082 et compagnie, qui prennent des chocs à hauteur d'1,20 m. Si tu le fais tomber à peu près d'1,20 m, il va résister au choc. L'humidité, donc avec, si tu renverses un liquide sur le clavier, quelques 300 ml d'eau, donc l'équivalent d'un verre hein, à peu près qui va être renversé sous clavier, va être éjecté et ce sera étanche. Ça protège déjà là. On a des Chromebooks qui ont été conçus pour l'éducation. En 2020, il n'y avait peut-être pas de Chromebook. J'ai pas souvenir qu'il y ait des Chromebooks dédiés à l'éducation faits pour ça en fait. Peut-être acheté. Et d'ailleurs, dans le listing qu'on voit, il n'y a aucun Chromebook renforcé.
Ouais, alors chez Acer, moi je les ai testés, hein, les Chromebooks justement renforcés. où ils disaient que justement ils en sortaient de plus en plus. Je pense pas qu'en 2020 il y en avait beaucoup. Il y en avait sûrement, mais pas au même prix. Et je pense que très clairement, c'est pas ça, c'est pas sur cela qu'ils ont investi. Parce que moi, pour l'avoir vu et pour avoir testé, on n'est pas sur du prix non plus ultra entrée de gamme parce qu'il est renforcé de manière militaire. À un moment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus. Donc, dans l'absolu, ça a un impact. Mais par contre, ce serait peut-être plus intéressant de faire des commandes avec des appels d'offres, avec des choses peut-être un peu plus chères, mais qui duraient beaucoup plus. Ça pourrait être aussi judicieux.
Mais bon, ouais, mais un petit peu plus cher, tu vois, vu qu'un Chromebook, ça reste relativement très faible en termes de coût. Ils ont réussi quand même à équiper du one-to-one, donc un élève, un ordinateur, ce qui n'était pas possible auparavant parce que ça coûtait trop cher. Donc, ils ont réussi à avoir plus d'ordinateurs pour équiper plus d'enfants. Donc forcément, il y a plus de casses. Hein, si on fait un ratio, hein, plus il y a d'élèves, si on compte juste le nombre d'appareils cassés, plus il y a de personnes qui l'utilisent, plus il y a de chances d'en casser plus. Tu vois, c'est mathématique, hein, c'est implacable. Après, pour les pièces de rechange, tout ça, on l'avait vu avec Karim hein, lors de son passage sur le CKB Show dans l'épisode 98, c'est que Acer travaille beaucoup sur le reconditionnement de leurs appareils également. C'est que si tu envoies ton Chromebook en réparation, tu n'auras pas forcément des pièces neuves à l'intérieur. Ce sera peut-être des pièces qui ont été réchappées d'un autre Chromebook qui allait, lui, décéder. Ils utilisent du plastique recyclé, tu sais, le fameux PCR, donc les plastiques retrouvés dans les océans, des choses comme ça pour faire des châssis. Bref, l'écran peut être un écran qui est déjà utilisé qu'à quelques heures de vol, mais sur un produit d'occasion, c'est normal. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on ne puisse pas nous les acheter directement depuis le site Acer pour se les commander, puis peut-être le faire nous-mêmes, ça pourrait être intéressant. Google explique aussi, je vais finir avec ça, hein, qu'ils travaillent tous les jours avec des partenaires fabricants d'appareils pour construire de plus en plus d'appareils dans tous les segments avec des matériaux recyclés, donc comme je viens de le dire, circuit hein, post-consommation, qui sont plus réparables et au fil de temps, utiliser des processus de fabrication qui réduisent les émissions. Donc, encore une fois, plus on réduit, mieux c'est, donc tant mieux. Et on conclut par l'enquête qui nous dit les fabricants doivent améliorer leur transparence, une durée de vie, la façon de réparer, tout ça. Donc, ouais, je pense qu'on est d'accord, mais c'est pas lié uniquement au Chromebook. Ce serait bien que tous les fabricants et de tous les produits nous expliquent comment faire. Ça devrait presque être obligatoire d'avoir. Et je crois qu'en France, on a d'ailleurs une loi qui est passée où les constructeurs sont obligés de fournir des pièces d'échange pendant plusieurs années après la fin de garantie de l'appareil. Donc, ça pourrait aller aussi sur les Chromebooks.
Bien sûr.
Est-ce que tu as d'autres éléments à apporter autour de cette enquête, Sylvain ?
Écoute, non, on a pas mal débriefé sur les différents points. Je pense qu'on a essayé d'être le plus objectif possible et de donner un peu de sens. Donc, moi, ça me tenait à cœur. Je t'avais appelé dans la semaine en disant « t'as vu l'article, ça m'a un peu saoulé, j'aimerais bien qu'on en parle ». Ça me tenait un petit peu à cœur d'en avoir parlé avec vous. C'est cool que tout le monde ait pu participer par les commentaires et j'ai rien d'autre à ajouter à mon niveau.
Ouais, bon bah écoute, on fait une petite conclusion de tout ça. Prolonger la date d'expiration des fins de vie, bon bah forcément, si ça pouvait durer 10 ans, ça serait encore mieux. Produire des pièces de rechange, avoir un stock minimum de base de 10%, ce serait pas mal aussi. Qu'on puisse changer nous-mêmes notre appareil, que ça soit plus accessible. Ça, c'est un bon point que je ressors de l'enquête. Je trouve ça vraiment intéressant. Standardiser les pièces. Entre les différents modèles, alors entre un Acer 13, un Acer Spin 713 et un Acer Spin 713, c'est la même chose, mais dès qu'on passe en la version juste d'après, malheureusement, c'est plus forcément le même châssis ou chose comme ça, mais en même temps, c'est le jeu de la nouveauté. Est-ce que quand je change d'appareil, j'ai envie d'avoir le même? Je sais pas. Travailler avec les reconditionneurs pour que ça soit plus simple à réparer, à reconditionner. Il y a un truc qu'ils reprochaient pas mal, c'est que Chrome OS empêche l'installation d'un autre système d'exploitation sur l'appareil. Et là, c'est plutôt vrai. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, on ne peut pas installer un Windows sur un Chrome OS. On peut, mais c'est compliqué.
Il faut le démonter, en fait, sur les anciens. Ouais. Il faut démonter. Il y a une petite protection. C'est chiant. C'est vrai que c'est chiant. Même s'ils ont maintenant fait Chrome OS Flex, ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Mais c'est vrai que c'est chiant. Après, ça reste leur écosystème, ça reste leur matériel. Ça ne me choque pas non plus. Enfin, tu vois, sur quelque chose qui existe déjà. Mais En l'état, c'est chiant. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose parce que tout à l'heure, on parlait des 8 ans de mise à jour et ils se sont pas mal plaints en disant que les mises à jour s'activent à partir du moment où les modèles sont créés. C'est-à-dire que si un modèle, il l'achète 3 ans après, il n'en aura que 5 ans.
Oui.
C'est vrai, mais en même temps, c'est un modèle qui a aussi 3 ans avec un prix qui sera aussi largement plus bas. Et juste pour donner aussi un petit peu de sens par rapport à ça, bah moi, par exemple, mon 314, qui avait une durée de vie, je crois, jusqu'en 2026 ou 2027, il a pris un an à un moment. Donc, ça veut dire ouais. que ce qui est gravé peut très bien à un moment décider de rallonger une année supplémentaire aussi. Voilà, c'est ça que je voulais juste rajouter.
C'est ça. Donc, pour rebondir sur ce que Didier nous dit dans le chat, ce serait bien qu'un Chromebook en fin de vie puisse passer sur Flex. Oui, pourquoi pas. Effectivement, ça peut être intéressant. Mais avec aujourd'hui Chrome OS Flex, on perd les applications Android, par exemple. Donc, ce serait bien que Google travaille sur le portage des applications Android. Pourquoi pas, en tout cas. On peut quand même installer un Linux, on peut installer un Windows si on veut sur un Chromebook, mais je ne vois pas l'intérêt parce que même après les 8 ans, ça fonctionne toujours très bien. Plusieurs Chromebooks qui n'ont plus de mise à jour et qui fonctionnent toujours parfaitement et qui sont fluides, réactifs, qui s'allument toujours en moins de 5 secondes. Bref, des super bons appareils. Ouais, je crois qu'on a fait un peu le tour de cette enquête. Alors, elle est très, très grosse. Donc, je vous ai laissé le lien dans les notes de l'émission. Vous verrez 27 pages avec des petits tableaux, des graphiques, des choses comme ça. C'est plutôt un sympa. Je pense qu'on peut passer à la dernière étape de ce podcast. Hein, je crois on peut parler, si tu le souhaites, de nos coups de cœur directement pour conclure ce super podcast. J'espère que vous avez apprécié le travail de recherche que nous avons fait. Sylvain, as-tu un coup de cœur à nous donner cette semaine?
Oui, je vais faire une dédicace à Thierry. Je sais qu'il est là, qu'il m'écoute. Bisoccer, alors il faut aimer le foot. Si vous n'aimez pas le foot, vous pouvez ne pas m'écouter. Bisoccer, c'est une application donc qui est, alors il y a en page web ou en application Android, vous pouvez l'avoir sur Chromebook. Ça vous permet de suivre les matchs de foot. Vous pouvez choisir des équipes de votre choix. Vous pouvez décider de mettre en place des notifications quand il y a un but, un carton ou juste à la fin du match avec le score global. Vous pouvez vraiment paramétrer aux petits oignons ce que vous pouvez. Vous avez des infos transfert, vous avez des news, vous avez les notes des joueurs pendant les matchs. Enfin voilà, c'est vraiment ultra complet et c'est gratuit. Il y a une version payante qui enlève la pub. La pub n'est pas intrusive, vous n'avez pas de pub à fermer. C'est souvent dans les endroits un petit peu blancs où il n'y a rien. Mais en gros, j'ai regardé, c'est 3,99€ pour enlever une année de pub. C'est ultra carré. Il n'y a pas que le suivi des scores. On peut avoir vraiment tout un tas de news, transferts et autres footballistiques. Donc, si vous aimez le foot, je vous invite à aller dessus parce que à l'heure actuelle, j'ai pas trouvé mieux. Et Thierry a raison. Il m'a fait découvrir en me disant vas-y, vas-y. Et c'est vrai que c'est très bien. Et c'est une société espagnole. On a vu tout à l'heure Baza Malaga. Donc, en plus, c'est européen. Et je trouve que voilà, quand c'est européen, c'est toujours mieux malgré tout.
Effectivement, très très bien. J'ai regardé, hein, je suis pas très foot, mais j'ai regardé, ça fonctionne parfaitement bien sur un Chromebook hein, via l'application, la page web. Pas de pub, quand tu m'as dit qu'il y avait de la publicité, j'ai regardé, mais elle est où la pub? Et donc du coup,
sur c'est l'appli. Plutôt, hein,
ouais, voilà, c'est pas de pub sur la page web, donc allez-y, foncez. Belle petite application à tester si vous aimez le football. Je vous donne la mienne. Bon, allez, vous savez, ça fait quelques temps que je vous parle que d'intelligence artificielle, donc vous avez un doute de ce que je vais vous dire. Je vais vous parler d'intelligence artificielle. Et oui, évidemment, pour changer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la génération d'images. Alors, on connaît tous les Midjourney, on connaît les. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre, les Dali et compagnie. Moi, j'ai testé depuis quelques semaines, et ce, grâce à Jean-Luc qui m'a alerté sur l'arrivée de cette solution-là, la solution d'Adobe. Vous connaissez, hein, tu connais Adobe, hein, Lightroom, Photoshop et compagnie. Ils ont sorti leur propre solution de génération d'images qui s'appelle Firefly. Elle est exceptionnel. Franchement, si vous voulez vous tester à quelque chose, allez dessus. Hein, je vous ai mis les liens dans les notes de l'émission. Vous cliquez. Je crois qu'il faut encore être sur liste d'attente. Vous sélectionnez avec un simple compte Google. Ça passe très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle marche, mais du tonnerre. Je vous ai fait des images. Vous allez voir cette semaine sur le site. Je crois que tous mes articles, il y a une image faite par Firefly. Elles sont vraiment super bien faites. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est de l'art. Hein, donc, enfin, de l'art. Attention, je vais me faire jeter un caillou dessus. C'est on aime ou on n'aime pas en fait. Et pour l'instant, elle fonctionne uniquement en anglais, mais elle fonctionne très très bien. Google Translate pour ceux qui n'ont pas une maîtrise de l'anglais parfaite, mais vous pouvez faire des images qui sont bluffantes. Je l'ai sorti époustouflante et très simple d'accès. Alors, il y a trois fonctionnalités. Tu peux créer une image classique, texte ou image. Hein. Tu tapes ton texte à une image. Tu peux créer du texte avec des images à l'intérieur. Genre, tu mets Sylvain et tu veux qu'il y ait des câbles à l'intérieur de chacune des lettres, des choses comme ça, un peu gothique, un peu... voilà, tu mets ça, ça va changer. Et là, ils ont rajouté également un système de vectorisation d'images pour avoir une image vectorisée qui est très, très sympathique également. Ça, je vous en dirai un petit peu plus parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, moi, c'est mon petit coup de cœur qui fait que je perds beaucoup de temps en ce moment. Je le teste tous les jours, et je m'amuse beaucoup, en tout cas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous n'avez pas vos coups de cœur, allez-y. Hein, si vous avez des coups de cœur, donnez-les nous, hein, parce que nous aussi, on aimerait tester des nouveaux trucs qu'on n'a pas testés. Gardez pas vos trucs à vous. Et je crois qu'on a terminé cet épisode qui était plutôt intéressant, à mon sens. Vous nous direz dans les notes de l'émission. Si vous êtes encore ici, à cette heure-là, avec nous, en live, ou que vous nous écoutez et que vous êtes arrivé au bout du podcast, ça veut dire que ça vous plaît un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller nous soutenir sur patreon.com/mycromebook. Il y a forcément, les liens sont là dans les notes de l'émission. Mais je vais vous demander une chose hyper importante pour nous, c'est rajouter des petites étoiles. Plus il y a d'étoiles, mettez-nous des étoiles dans les yeux. OK ? Il faut que ça brille, il faut que ça claque. Plus il y aura d'étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur toutes les applications de podcast, mettez des étoiles et surtout, laissez-nous un commentaire. Dites-nous si nous nous sommes trompés, si je parle trop, si dites-nous tout ce que vous pensez de ce podcast et peut-être des évolutions que vous voulez voir arriver sur le prochain podcast. Et puis, partagez à tout le monde. Dites à votre tante, écoute, si tu veux un Chromebook, c'est peut-être le podcast qu'il te faut. Donc, allez-y, faites le partage, n'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas un petit pouce en l'air et puis un commentaire en dessous de la vidéo, ça nous fait remonter dans les classements et ça nous fait toujours un petit peu plaisir. Voilà, je crois que j'ai fini. Sylvain, on peut te retrouver un petit coup sur Twitter, j'imagine, comme d'habitude.
Sur Twitter, sur Reddit, principalement.
Ouais, c'est pas mal.
Et sur Discord et sur à peu près des jeux vidéo, Overwatch 2 ces temps-ci, voilà, si vous voulez un petit peu vous amuser, voilà, en gros.
Ouais, très bien, on ira voir tes séances. Tu les streams, tes séances d'Overwatch ?
Pas du tout.
Oh, bah mince.
Non, pas du tout. Je pourrais, mais je ne le fais pas.
T'es trop bon, c'est pour ça.
Exactement, c'est ça. Et par humilité, je n'ai pas envie, j'ai pas envie que les gens voient ma qualité.
Je comprends. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie à tous d'être passés ce soir, de nous avoir écoutés jusqu'à là. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, une bonne fin de journée, une bonne journée tout simplement. Et puis, on se dit à dans 15 jours pour un prochain épisode du CKB Show. Surtout, portez-vous bien. Et puis, à ciao. Bonsoir. Ciao.
Ciao tout le monde. Bye. Bonne soirée. Merci beaucoup.
Merci à vous. The